bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. La bande originale, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez avec les Lacanau.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bonjour Marina.
Marina Rollman. J'ai plus qu'après. Tom Villa.
Bonjour.
Tom Passureau sera là tout à l'heure. Et nos invités Anna Girardot et François Simil. Le couple de deux mois, M-O-I, parce que ce sont les égaux, ce sont les êtres humains qui sont en cause dans ce film. Bonjour et ravi de
Bonjour.
Vous accueillir, comme Bonjour. D'habitude. On est ravi avec ce film, le nouveau Clapiche que vous retrouvez. D'ailleurs, est-ce que c'est le même Clapiche que vous aviez abandonné au milieu des vignes?
Ce qui nous lie.
Avec Ce qui nous lie, ou ouais. Vous le trouvez différent quand il n'est pas dans la nature, mais quand il retrouve cette ville de Paris qu'il filme si bien?
Non, Cédric Clapiche ne change pas. C'est pour ça qu'on l'aime. Cédric aime Paris, c'est vrai, le filme comme personne. Et quand on le retrouve Porte de la Chapelle le premier jour au milieu des bus et des voitures et qu'on doit traverser la route comme ça, on sent qu'il est complètement dans son élément. D'accord. Et qu'il est très heureux d'être là.
Il y a toujours la notion des saisons, en tout cas. Ça, il aime bien faire les saisons parce qu'il y a aussi quelques images faites en montagne, soit la neige, soit pas de neige. Donc il aime bien aussi cette temporalité. Et c'est vrai qu'on n'a pas le même rapport à sa géographie ou à sa famille en fonction de est-ce qu'on va marcher dans la neige ou est-ce qu'on on va au milieu des prairies vers l'église. Je n'en dis pas plus. Ça fait partie aussi des quelques rebondissements qu'il y a dans ce film, parce qu'il y en a des rebondissements dans cette solitude, François Civil, en fait. C'est le film de deux âmes perdues.
Exactement. Il y a des rebondissements. Après, c'est vrai que en lisant le scénario, on se disait c'est les films de Cédric, quoi. C'est qu'il n'y a pas énormément non plus de rebondissements, de l'intrigue, c'est jamais le centre du truc. C'est souvent des films de personnages et de moments de vie. Et là, en l'occurrence,
de génération aussi. C'est la peinture d'une génération dans le milieu urbain. C'est deux âmes esselées dans un appartement minuscule, entre deux murs, avec un écran pour aller vers l'extérieur, alors que l'extérieur vient pas très souvent vers vous, en fait.
Mais c'est tellement bien dit, tout ça. Je pense que je vais vous laisser faire la promotion. Je vais y aller, moi, c'est magnifique.
Il reste 1h20 quand même.
Ok. Là, vous avez enchaîné vraiment des très belles phrases, donc ça va être compliqué derrière pour nous. Mais...
Dans une heure, elle l'a dit à l'envers. Ça fait aussi.
Hein, génial.
Non mais elle a raison. C'est basé là-dessus, dans une génération qui est on ne peut plus connecter et qui se retrouve seule.
Exactement, ouais. C'est les solitudes un peu modernes qu'on peut avoir dans les villes où on est tous dans des petites cases les uns sur les autres et où on se regarde plus trop les uns les autres. On voit bien dans les lieux publics maintenant que tout le monde a, enfin c'est j'enfonce une porte ouverte évidemment, mais que on a tous la tête dans nos téléphones et dans le virtuel sans arrêt, que même pour rencontrer des gens maintenant c'est sur des photos, on regarde des pixels et on choisit. Donc ça c'est un petit constat un peu triste.
Surtout hein, Anna Girard, vous non.
Mais non, moi pas tant que ça, mais le film
raconte
ça.
Elle clique, elle poke, elle like.
Elle like dans les 2000.
Non
mais c'est vrai que dans ce film,
vous savez que c'est l'ancêtre le poke.
C'est
l'ancêtre de Tinder, bien sûr.
Très bien.
Okay. Non, dans le film, en fait, on parle des gens qui parlent pas d'eux, parce que sur Instagram, ou sur Facebook, on va juste montrer ce qui va bien, comment on est tous réunis les uns avec les autres, que le ciel est bleu, il y a une piscine, on boit que des cocktails, c'est génial. Et en fait, non, il y a des moments où on se sent seul, il y a des moments où on est perdu, il y a des moments où on se pose des questions. Et malheureusement, la seule chose sur laquelle on peut s'appuyer, c'est notamment Instagram qui ne va que véhiculer ce genre d'image. Et du coup, ça fait des gens qui sont un peu perdus, qui ont du mal à parler de leurs problèmes. Et les psys du film...
Joué par Camille Cotin et François Berléand.
Et François Berléand, qui sont formidables.
Absolument.
Finalement leur permettent de mettre des mots sur ces angoisses et de les libérer. Et c'est pour ça qu'on a montré le film en France depuis le mois de juin et que les gens en sortent avec le sourire en disant mais merci parce que vous venez de parler de moi et des endroits que moi j'osais même pas parler. Et ça me donne de l'espoir. Il y a des filles qui disent moi j'ai 30 ans, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie de tomber amoureuse. C'est cool.
En tout cas, c'est touchant aussi parce que il y a le moi, il y a la notion psychanalytique du moi justement. Il y a beaucoup, c'est saupoudré. Hein, c'est pas un film sur la psychanalyse, mais quand même, il y a l'analyse de ces caractères. Et puis c'est du cinéma, c'est du Clapiche. Il y a la rencontre ou pas. D'ailleurs entre les deux, parce que comment aussi, c'est très symbolique. On peut passer à côté de l'âme sœur sans s'en rendre compte ou en étant habitant juste carrément voisin d'un même immeuble du côté de Stalingrad, pour ceux qui connaissent un peu Paris, le métro aérien.
Les drogués, tu connais.
Ouais. D'eau, canal Saint-Martin ou d'eau à Montmartre, que je connais un peu mieux. Allons-y sur les interros d'abord et les questions concernant Anna Girardot et François Civil. Anna, sa maman lui a reproché une chose, et visiblement une fois de trop, puisque c'est ce qui a poussé Anna à quitter la maison à 21 ans.
Ranger sa chambre.
Exactement.
Ouais, c'est chiant. Ouais.
21 ans, c'est range ta chambre, et là, puisque c'est ça, je me casse.
Bah ouais, à 21 ans, c'est quand ta mère te dit range ta chambre, tu te casses.
Vous êtes susceptible quand même. Range ta chambre. Ah, c'est comme ça, je me casse.
Ah ouais, c'est pas très bien. Ouais. C'est encore comme ça aujourd'hui.
Ah oui,
c'est encore comme ça. La chambre est toujours pas rangée.
La chambre est toujours rangée.
Sa maman lui vous a demandé de ranger la chambre, mais blague à part, vous êtes resté à la maison par confort ou par peur de l'extérieur?
Non, pas du tout. Moi, je suis partie le jour de mon bac, j'ai acheté un billet d'avion, je suis partie à New York le lendemain et j'ai vécu là-bas 3 ans. Et c'est en revenant à Paris, d'accord, en cherchant un appartement et en vivant chez ma mère pendant quelques semaines, que tout d'un coup, après avoir eu 3 ans d'indépendance à New York, ma mère qui m'a demandé de ranger ma chambre, c'était un peu trop.
D'accord.
C'est tout. C'est ça l'histoire.
Au cinéma, François Civil a pleuré devant 120 battements par minute, mais également devant un autre film. Plus surprenant en termes d'émotion.
Star Wars.
Exactement.
Ouais. Ah ouais, ouais. Non, mais tous, en fait, tous les films, tout type de.
Enfin, faut que tu me dises à quel moment tu pleures dans Star Wars.
C'était à quel moment exactement?
Je crois que dans le dernier ou l'avant-dernier, du coup, je sais plus trop, le retour de Luke Skywalker.
Ouais.
J'ai chialé là.
Ah bon.
Ouais, ouais, puissance. Surtout qu'il est en face de Carrie Fisher qui est décédée depuis, il y avait un espèce de truc un peu.
Voilà, voilà.
Mythologie et autre chose. J'étais obligé d'invoquer un mort pour.
Ça marche à chaque fois. Hein,
pour, détendre, mort, bim, bien pour détendre et assumer, mais enfin, il les assume très bien et il faut assumer ses larmes au cinéma. Vous avez pleuré, Anna, devant Le Dîner de cons?
Oui.
Oui.
À quel moment, là aussi, je vois pas?
De rire, peut-être.
Les impôts.
Non, parce que je suis très touchée par Villeray au tout début, quand il est avec sa secrétaire et qu'il a 2 cravates, et qu'il est très excité d'aller cette soirée, il est content, et puis en fait, on va se foutre de sa gueule, et moi, ça me brise le cœur, voilà, c'est tout.
Oh. Pour certains, c'est une corvée, pour Anna Girardot, c'est un plaisir.
Faire le shopping?
Faire le shopping, non.
La vaisselle,
non. Les carreaux, non. Leur passage.
On est toujours sur le rangement?
On est...
L'aspirateur?
Faire les courses.
Les vitres.
On est pas, repassage.
On est pas loin sur le rangement.
Repassage, ouais, non.
Repassage, non.
Le tri.
Trier, oui.
Alors, le tri pour...
Balancer des
quand on achète des affaires nouvelles, on jette au fur et à mesure.
Non. Recycler des vêtements.
C'est ranger le frigo.
T'es obligé de ranger. Tu le mets dans des
cartons. Des boîtes.
Déménager.
Exactement.
Et 3 points pour cadeau.
Vous aimez déménager.
Qui a dit ça?
Sûrement vous dans une interview.
Psychologie Magazine.
Dans Grazia l'année dernière.
Oh là là. Non mais oui, je déménage beaucoup.
Je suis indépendante, libre de mes choix.
Qu'est-ce que vous avez dit de ranger votre chambre cette fois là?
C'est ça mon problème. Non,
c'est son mec qui a dit maintenant tu ranges.
J'ai dit ok, je me casse.
vous aimez le changement?
J'aime le changement.
Est-ce que vous aimez Paris?
Paris, bien sûr que j'aime Paris.
Non, je sais pas. Il y en a qui supportent pas la pollution, les embouteillages, les trottinettes électriques sur les trottoirs. Enfin,
non, moi maintenant j'ai un vélo électrique et j'ai habité dans 14 arrondissements à Paris.
Pas mal.
Ouais. Donc, mais en effet, je déménage.
Ça s'appelle la bougeotte. Ouais, ça s'appelle la bougeotte. Vous, François, quel rapport vous avez comme Cédric Lapiche avec Paris?
C'est un peu dans mon patrimoine génétique. Hein. Je suis né ici, ça fait 30 ans que je suis là, donc beaucoup d'amour évidemment pour Paris. Mais là, en ce moment, par exemple, je tourne à Marseille et je suis en train de me dire que c'est quand même pas mal aussi. Quoi. Ça se défend.
Il y a une vie en dehors du périph.
Il y a une vie, passer le périph, il se passe des trucs. Et du soleil déjà.
François parvient souvent à arrêter, mais il rechute.
La clope?
Non.
La drogue?
Non.
Un truc qu'on mange?
Arrêter de bouger, le café? Arrêter de bouger?
Un truc qu'on mange?
La viande?
Je suis un peu gros. Ok.
La viande?
Ah ouais, ouais. Bah, j'ai arrêté il y a quelques années. Mais il m'arrive de craquer.
On parle de toutes les viandes ou de la viande rouge?
On parle de toutes les viandes.
Toutes les viandes, d'accord.
Sauf le poisson.
Ok.
Je mets pas le poisson dans la viande.
D'accord. Flexitarien, comme on dit.
Ouais, quelque chose. Je sais pas. Ouais. Ça va, ça vient.
C'était pour le traitement des animaux ou pour votre propre santé?
Écologie et traitement des animaux, mais c'est un peu hypocrite. Hein, on est un peu paradoxal hein, comme êtres. Parce que du coup, je mange du poisson. Donc,
je suis pas sûr de la liaison là.
Non, non, comme Z, si je mets un Z, moi, entre les.
De temps en temps, je distribue des Z.
Je
suis désolé de le relever celui-là parce qu'il est trop seul.
Il fallait surtout qu'on est en direct, tu pourras même pas
m'aider. Non, mais en même temps, ça se comprend parce qu'articulatoirement parlant, c'est compliqué comme être.
Déjà, le mot que t'as choisi pour articuler.
C'est compliqué comme être.
D'autant qu'il y a un H à être.
Comme zèbre, tu veux.
On peut passer maintenant à la suite.
Bien sûr, si enchaînons parce que là, c'est déjà gênant pour moi.
Qu'est-ce qu'Anna essaye de faire depuis là de 13 ans?
Des pâtes?
Du poney?
Non. Du poney?
Ranger sa chambre?
Non plus?
Non.
Ah, c'est un sport?
Déménager?
La musique, la guitare, du chant?
C'est un
chanter. Le violon?
Non.
La sculpture, la peinture?
La danse? La danse?
C'est quoi? C'est le design? C'est
le macomou?
Le design, il l'a fait.
Sculpter de la céramique?
Non.
La poterie?
Non.
Tisser? Tricoter?
C'est un art.
La gravure sur bois?
La poésie? Le chant de air guitare?
La BD? La pierre?
Non.
T'as dit
quoi?
Les aquarelles de...
Non, c'est pas de la BD.
L'écriture.
Oui, exactement.
Ah ouais. J'ai
l'air déçu. Non, mais non, un truc fou, quoi.
J'ai toujours aimé raconter des histoires. L'écriture fait partie de ma vie. Depuis l'enfance, j'ai essayé d'écrire un roman à 13 ans.
Ah oui.
J'ai dit ça dans
si
Télépoche.
C'est les moments
si c'est
en
faux,
interview
non,
où
si
on
faux,
se
dites
perd.
Oui.
C'est le moment où on se perd. On parle tellement de soi qu'à un moment donné,
on en dit trop.
Mais c'est vrai que j'avais écrit un roman sur tous les gens qui habitaient dans mon immeuble à 13 ans. Enfin, c'est un roman, non, c'était un bout de papier. Il devait y avoir 60 pages et je pensais que c'était un grand roman. Non, j'aime bien écrire, j'aime bien dessiner aussi. Dessiner, je trouve, permet de véhiculer plus d'émotions que parfois l'écriture. Moi, j'ai un petit blocage là-dessus que je soigne, mais je trouve qu'à travers le dessin, on exprime beaucoup de choses.
Et passer à la réalisation, où là, vous auriez les deux. Vous pourriez faire à la fois l'écriture et le storyboard, comme ça, vous seriez comblé.
C'est vrai, exactement. Et du coup, je vais réaliser un court-métrage cette année, courant 2020, que je tournerai à Venise.
Voilà. Ah, c'est le décor, le lieu.
Le décor, ce sera Venise.
Et l'histoire?
Et l'histoire, ce sera...
C'est romantique, c'est...
C'est contre-romantique. C'est pour casser un petit peu les contes de fées dans lesquels on a, avec lesquels on a grandi quand on était petite et qui ont tendance un peu à nous faire vriller quand on grandit.
Et vous continuez de créer des collections de sacs, d'accessoires féminins ou pas?
Non. Je n'ai pas le temps, mais j'aime beaucoup des... Enfin, voilà.
Mais vous le fit, comme dirait François Soulou. Vous le fiz.
Sur France Inter.
Et bonne rentrée à tous. Hein.
Qui écoute.
Que des universitaires.
François aime la musique, la photo, la grammaire, l'orthographe, on le sait. Le dessin aussi, mais il a aussi une autre passion pour...
Le poney.
L'art, non, ne le dis pas, Anna.
Alors attends,
s'il te plaît.
Oui, c'est une forme d'art, oui.
Mais on a couvert beaucoup de
la
choses.
La mécanique.
Non.
Le kung-fu.
Non.
Une forme d'art, la BD.
Le massage.
L'alcool.
Non. C'est alors on est plus proche, on est plus proche du dessin. On est plus proche du dessin.
La calligraphie.
Alors c'est une
caricature.
Ah donc c'est pas l'escalade.
Non. Alors l'escalade c'est son sport et on le voit dans le film d'ailleurs.
Le graphe.
Ah ouais.
L'alphabet chinois.
Non, c'est pas ça.
Bon, ben moi je sais pas, donc nickel.
Alors attends, refais la liste.
Ouais.
Il a dit photo.
Non, il y a musique, photo, dessin. Ouais. C'est plus proche du dessin.
Oui.
Mais c'est pas le graphe.
Non, ça commence pareil, mais ça finit pas comme ça.
La gravure?
Oui, sur.
Bois?
Non.
Papier?
Non. Je sais pas.
Sur humain?
Sur ce qu'il veut, sur ce qu'il veut.
What?
Sur humain.
Sur humain. Enfin, sur
What?
Cuir.
Quoi?
Ah, sur cuir?
Ouais.
J'ai dit ça un jour.
Ah ouais? Vous avez essayé dans Modes et Travaux en 2003.
Mais non, mais.
C'est des tatouages, quoi. Non,
je me suis mis à la gravure sur cuir. Alors, c'est récent, c'est Libé. Ouais. C'est Libé en 2019, donc c'est quand même pas
qu'est-ce
non plus.
Que je l'aurais raconté.
C'est faux?
N'importe quoi. Ouais, non, ouais. Si, j'ai fait de la gravure sur bois et un peu sur cuir à un moment donné, quand
voilà.
Avec une pote, on voulait faire de la maroquinerie. mais ça a duré vraiment 40 minutes, quoi, je pense.
Donc, dans la vie, il y a des 40 minutes qui jouent.
Libé était là à ce moment-là, ouais. Non, bah, désolé.
Très bien, non,
ça me passionne pas tant que ça, quoi.
Ok, très bien, on oublie.
J'aime mieux.
Ouais. Tant mieux, mais pour quelqu'un qui ne mange plus de viande, laisser la peau des bêtes
voilà,
tranquille aussi.
Très bien.
Revenons à Deux Mois, donc ce nouveau film de Cédric Lapiche, où il y a vous, Anna Girardot, François Civil, il y a également donc Camille Cotin, François Berléand, Simon Abkarian et Eye Haïdara. Si j'appuie sur Simon Abkarian, c'est que l'épicier du coin justement, qui est peut-être encore la seule part de vie qu'il y a dans ces villes où on est dans l'informatique. Il y a des vannes qui sont faites sur Amazon, sur tout l'automatisation dans les boîtes, les personnes, justement, les personnages qui ne se connaissent pas, qui ne se parlent pas, et le seul endroit finalement où leur vie évolue au gré de leur goût, de la présence d'un chat, c'est dans cette épicerie, et avec même la prescription de Simon Carian, enfin de son personnage, avec ça, c'est pas pour
c'est
vous.
C'est même plus de la prescription, ça, c'est oui. De l'obligation.
Oui. Ouais, c'est la bande forcée.
Mais c'est génial. C'est-à-dire qu'il reste ce
côté
vivant. Ouais, ce côté vivant de quartier, ouais. avec cette influence et cette épicerie, puisqu'on le voit dans la bande-annonce, vous êtes voisin dans le film, vous ne vous connaissez pas, vous vous ignorez, mais c'est l'un des endroits où on se dit, c'est là où ils vont se rencontrer. On ne dévoile pas ce qui se passe, mais son rôle, en tout cas, son personnage, est extrêmement important. Dans la vie professionnelle, vous êtes plutôt dans la réussite. Anna Girardot, vous êtes une chercheuse, notamment sur le cancer. Vous faites, même si vous avez du mal à vous exprimer en public, vous êtes plutôt dans la réussite.
C'est évidemment, elle a fait des grandes études et elle a l'intention. Enfin, le métier qu'elle fait est extrêmement dur, extrêmement compétitif. Et c'est par contre quelqu'un qui a appris à se taire quelque part. Elle a été cassée, elle a été brisée un an auparavant après une rupture et elle a perdu confiance en elle et confiance en ses mots. Et donc oui, elle réussit, mais pour l'instant, elle est vraiment bloquée dans son métier.
Et vous aussi, François Civil, il y a cette comme une espèce de frein à main qui ne s'enlève pas. Vous n'arrivez pas à vous lâcher. Et puis professionnellement, il y a des doutes. Il y a les potes qui se font virer. Vous n'assumez même pas d'être celui qui passe entre les gouttes et qui, lui, n'est pas viré.
C'est ça, ouais. C'est un jeune homme qui vit avec un sentiment de culpabilité un peu dans tous les domaines qui traverse. Et c'est un truc qu'il a de sa famille, quoi. C'est un espèce de blocage. Un déni, bon, c'est un truc qu'on apprend plus tard dans le film, mais du coup, il est pas de Paris, donc lui, on imagine que ça fait peut-être 2 ans qu'il est là.
Oh, les deux ont des problèmes de relations familiales avec leurs parents.
Ah ouais, bien sûr. Ouais, ouais, ouais.
Les deux personnages.
Qui n'en a pas.
avec leur mère ou avec leur père. Et
il fait face à la bêtise aussi du monde du travail, c'est-à-dire que l'entretien avec ce que j'imagine être un DRH.
Ouais, c'est ça.
Très drôle.
C'est des questionnements tellement mais étonnants qu'on se dit que qui est normal dans l'histoire, lui ou moi, si on est complètement incapable de répondre à une question, se définir par un mot, par exemple, qui donne
en
lieu
un mot.
Ouais. À une très belle scène, c'est se demander qui est fou dans l'histoire. En fait.
Mais c'est ça, c'est l'économie des mots, quoi. Se définir en un mot, quoi. C'est tout ce que le film raconte, c'est que, en fait, on est pluriel et on n'est jamais les mêmes et on est complexe et on a besoin parfois de parler, d'exprimer les choses. Et notamment, les psys sont là pour ça dans le film.
Et avec plusieurs mots, justement. C'est-à-dire que d'un côté, on vous demande dans la société de vous définir en un mot ou de vous exprimer en public alors que vous n'en avez pas spécialement envie. Et de l'autre, ce mal-être, peut-être même ce début de dépression, ou en tout cas, si c'est pas une véritable dépression, il y a un poids à supporter. Ça sera dans l'expression et dans les mots, mais alors là, qui vont couler tout seul chez les psys, joués par Camille Cotin et François Berléand, que vous allez pouvoir vous soigner l'un et l'autre d'ailleurs.
Ouais.
C'est les bienfaits de la psychanalyse.
Bah moi je connaissais pas du tout et Anna non plus, je crois qu'on n'avait jamais vu de psy et avant le tournage du coup on est allé consulter elle et moi. Et en fait, c'est fou comment moi ça m'a fait...
Situation de couple où vous êtes allés chacun de votre côté?
Non, non, pour parler de nos problèmes à nous deux qu'on a à la maison, non pas du tout. Va ranger ta chambre, Anna. Non, non, mais du coup, dans chacun de notre côté. Mais du coup, moi, j'ai découvert ce truc-là et c'était un truc que je sacralisais un peu. J'avais peur de soit découvrir des trucs sur moi, soit craquer, soit changer d'un coup. Et en fait, c'est hyper simple, quoi. C'est deux personnes qui se parlent, qui se regardent dans les yeux, qui s'écoutent avec quelqu'un qui est professionnel, qui a des clés, qui a des conseils à nous donner parfois ou pas. Mais en tout cas, de parler, d'exprimer les choses.
Normalement, non. Le psy vous laisse parler, c'est à vous de trouver les solutions et il vous écoute.
Ouais, il y a un peu de type de psy, notamment Camille Cotin dans le film, elle est assez bavarde. Hein. Elle dit un truc d'ailleurs, elle disait je suis pas censé donner mon avis, mais mon avis c'est ça. Donc, ça, c'est l'écriture de Cédric qui est toujours bien.
Vous aussi, Anna Girardot, vous avez fait ce même travail de recherche, entre guillemets, sur les rapports au psy?
Bah oui, parce que c'est vrai que j'avais jamais vu de psy, donc j'y suis allée. Et j'étais un peu comme François, quelque part. Je me disais, non, mais tout va bien. Je vois pas du tout pourquoi j'irai voir quelqu'un. Finalement, je la vois encore. et parce que c'est super intéressant, finalement, de comprendre pourquoi on rentre dans un schéma et on finit par répéter tout le temps, incessamment, le même schéma. Et d'apprendre un peu à se connaître.
D'apprendre à se connaître, ça permet quoi? De ne plus se mentir, de changer quelque chose ou au contraire de mieux vivre ce que l'on est?
Bah, quelque part, en étant honnête avec soi-même, on est face à soi-même et finalement, on s'accepte. Et donc, on est mieux, on a plus confiance en soi, en qui on est. Et donc, logiquement, on avance mieux, je pense. Enfin, ça, c'est mon avis perso.
Mais... Totalement d'accord, ouais. On apprend à se connaître, donc on s'accepte, donc on s'aime. Voilà, c'est bien qu'on va dire, mais...
Pourquoi, par exemple, Anna a continué de voir ouais. La psy pour son bien personnel, et pourquoi vous êtes arrêté?
Moi, je veux rester dans un monde de torpeur et, et rester dans ma bulle, comme le personnage.
Il faut dire que Santiago Amigorena et Cédric Lapiche ont le monde de la psychanalyse, soit dans leur famille, soit autour d'eux, donc ils savent de quoi ils parlent. C'est délicat de définir le film, d'ailleurs, parce qu'on a parlé de la solitude, on a parlé de la société, on a parlé de ce sentiment de ne pas trouver l'âme sœur alors qu'elle est à quelques centimètres ou même dans le même wagon de métro ou le même transport en commun et de dire sur l'affiche il y a marqué comédie romantique, pardon, moi je suis pas du tout d'accord avec le terme de comédie romantique.
Réinvente.
Ouais, mais c'est presque le préquel de la comédie romantique. On se dit finalement qu'à la fin du film, ok, là pourrait démarrer une comédie romantique, mais c'est beaucoup plus profond, sincère, touchant et structurant que ça.
Oui, quelque part, on est vraiment dans le prémisse de la comédie romantique. On est témoin de ces deux personnages dont on tombe amoureux individuellement et dont on n'a qu'une envie, c'est de dire mais pourquoi ils ne peuvent pas se rencontrer.
Alors, il y a encore un chat. C'est pas forcément le ouais. Chacun cherche son chat qu'avait réalisé Cédric Lapiche. C'est vrai qu'il y a aussi un truc de génération à l'image du Péril jeune. On est passé à autre chose. Mais c'est
un monde sans pitié aussi.
C'est bien. Ouais.
Un parallèle avec une autre génération. Là, c'était votre père, Anna.
Hippo.
Hippo et Girardot dans Un monde sans pitié d'Éric Rochon. Ouais, c'était Hippo.
Ah, Hippo.
Ouais, c'était il y a 30 ans. Hein,
et c'était aussi une génération. C'était ouais. Pas les mêmes problématiques, bien entendu. Pas le même. C'était un peu plus solaire, on va dire, dans Rochon. Mais il y a quand même ça aussi qui doit être assez troublant pour vous, parce que vous êtes né l'année d'Un monde sans pitié.
Oui, c'est vrai. J'ai envoyé une photo à mon père parce qu'on tournait sur un studio avec des fenêtres parisiennes. Et je lui disais, mais c'est fou, ça ressemble vraiment ouais. À l'affiche du film d'Éric Rochon. Et tout d'un coup, j'ai essayé de faire un parallèle entre les deux films. Alors, c'est deux films différents. Ouais. Hippo est un garçon complètement différent, par exemple, que le personnage de Rémi ou que Mélanie. Mais déjà, il y a un téléphone fixe, alors que nous, on a des portables. Voilà.
Bah, surtout l'application pour vous, pour aller chercher des beaux gosses, l'application, elle est urgente.
L'application de rencontre. Et ben quoi, elle est urgente.
Non, mais sans application, ça serait pas du tout la même histoire. C'est ça qui est fou d'ailleurs, c'est qu'on a l'impression d'être connecté à la planète entière, on a l'impression d'avoir des tonnes d'amis sur les réseaux sociaux et on est seul.
Oh, c'est tellement
non, mais
triste,
c'est ça.
Mais c'est
non,
vrai.
Mais c'est la réalité. C'est la réalité.
Mais c'est vrai, quelque part, ces réseaux sociaux, ils nous bouffent un peu et j'en suis la première victime. Hein, c'est vrai, j'y vais sur Instagram et parfois ça, je me fais peur à moi toute seule.
Vous en parlez à votre psy?
Non, mais ce serait un bon sujet.
Ouais, notez-le.
Et quel regard, parce que c'est un regard sur une génération, quel regard vous avez sur votre génération, François Civil?
Oula.
Non mais question. Bah non, parce que c'est le film, c'est ça le sujet du film.
Bah en tout cas, j'embrasse celui de Cédric et je trouve que il arrive à chaque fois à croquer un moment de notre monde et de notre société et ça c'est fort quoi. Et moi c'est vrai que avant vu que je suis très entouré, que j'ai beaucoup d'amis depuis très longtemps, que j'ai une famille un peu soudée, je la sens pas vraiment cette solitude. Enfin je pensais ne pas la sentir et en fait en abordant le film, en commençant à le préparer, en parlant avec Cédric, avec Anna, je me suis rendu compte qu'en fait ça me touchait et que ça touchait plein de gens quoi et que donc c'était cool d'en parler ouais.
Finalement, la solitude touche toutes les générations. On en reparlera d'ailleurs demain avec Muriel Robin qui, elle ouais. aussi, se retrouvera seule sur scène. Je voudrais juste faire un clin d'œil aussi à Pierre Niney. Je ne l'ai pas cité. Une scène mais dinguissime, tellement drôle où on retrouve ce qu'il pouvait y avoir dans Casting, ce qu'il pouvait y avoir dans Files. Ouais. Le rapport, c'est votre pote.
Je crois qu'il écoute, là. Il m'a envoyé un texto.
On l'embrasse parce que il est juste dingue comme une espèce de pile électrique.
Très flippant.
En train de...
Il fait flipper. Ouais,
mais surtout,
il est croiser,
tellement juste tellement drôle. Enfin, voilà, ça fait partie d'un des moments délicieux de ce film signé par Cédric Lapiche. François Civil et Anna Girardot sont nos invités. Ça s'appelle Deux mois et ça sort ce mercredi. Tom Villa va vous poser des questions. Vous allez donner les réponses sans rien faire. Vous allez voir, c'est très confortable. Tom Villa.
Anna Girardot, François Civil, très très heureux de vous recevoir. Bienvenue dans la bande originale. François, peut-être une première impression comme ça à chaud.
Ça sent un peu la salle de sport, mais parce qu'en fait...
Oui, non, mais c'est bon, François, on sait, je vous expliquerai.
T'es à côté surtout. Souci, voilà.
Alors, vous faites partie d'une nouvelle génération d'acteurs. On vient d'en parler des réseaux sociaux. Merci de venir à la radio. Vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux pour communiquer avec vos fans, Anna,
peut-être? Voilà, la dernière photo que j'ai postée, qui a eu pas mal de likes.
Oui, c'est quoi? C'est une photo de coulisses, une photo de remise de prix, peut-être?
C'est Roger Rabbit.
Roger Rabbit. D'accord. Et vous, François?
Instagram, moi j'y vais pas mal. Suivez-nous. Kikoulal.
Merci François, on va vous suivre. Alors, vous venez pour le film De Moi de Cédric Lapiche. Vous pouvez nous pitcher le film, François?
C'était l'histoire d'une mini-taupe qui devait partir en voyage avec ses copains pour sauver une autre taupe ou un putois qui s'appelait Michel.
Je crois que, pardon, hein, mais on n'a pas
vu le même film.
Non, c'est pas ça c'est du ça. Tout. Anna, vous pouvez peut-être nous raconter le film si vous avez envie.
Moi, je veux faire du chameau.
On a tous envie de faire d'autres trucs, mais on peut pas. Anna, s'il vous plaît, aussi.
Moi, voilà. Je suis Marilyn.
Oui, oui, non, vous êtes Anna Girardot. Devez... Oh non.
On n'est pas bourré.
On va boire du tout.
Oh non. Anna, vous avez fait quoi avant de venir à l'émission?
On a bu beaucoup, beaucoup de vin.
Combien de bouteilles?
50.
Il est 11h du matin. Je veux dire, François, vous étiez avec qui avant de venir?
Gérard Depardieu.
Ah bah oui, bah je comprends, évidemment. Ça va être plus simple de faire l'interview avec vous, François. Je le sens. Ça va, François, ou pas?
Depuis hier matin, je suis plongé dans un monde parallèle où toute ma vie a changé.
De quoi? Mais ça... Oh là, ça va être très compliqué l'interview. François, on est quel jour aujourd'hui?
Le 29 janvier 1990.
Non, c'est pas possible, c'est votre date de naissance. Voilà.
J'ai perdu l'usage de mes consonnes.
Anna, deux secondes, je vous jure, je suis avec François. François, vous avez pris quoi, s'il vous plaît?
Dans la voiture, c'est il y a de la drogue.
Ah bah, je m'en doutais, je vous le dis, ça va être un peu abusé quand même.
En tout cas, c'était délicieux.
Mais c'est pas la question, François.
Qu'est-ce que tu me fais là? Tu t'emballes là?
Évidemment que je m'emballe, on vient pas à la radio défoncer. Pardon, on va se calmer, on va tout reprendre depuis le début. Bonjour, je suis. Mais faut compléter votre code. Non, putain!
Nom de Zeus, Marty!
Ouais, ça, c'est retour vers le futur. Vous avez une bonne solution, peut-être, pour qu'on termine l'interview dans des bonnes conditions?
On se fait vomir, peut-être.
Non, c'est bon, on va s'arrêter là. Vous voulez tenter de dire un dernier truc cohérent avant de conclure?
Bah, merci à tous. Merci à toute la profession. Merci à tous les motards de France.
Allez, c'est ça. Bisous à tous les motards. Bonne émission.
Merci, Tom Villard.
La bande originale. Nagui. Sur France Inter.
Et on retrouve Tom Villard en spectacle à Lille. Le nom du spectacle, c'est Les Nommés Sont. Et ce sera le 11 et le 12 octobre.
Ah, le 11 et le 12 octobre. Ouais, très bien, voilà. Dans un mois. Parfait. Parfait. Dans les villes de grande solitude, c'est là où on se retrouve finalement. Est-ce que l'amour sera au rendez-vous de ces deux jeunes gens? Ils sont totalement seuls, chacun avec un parcours totalement différent, chacun avec des familles, avec des vies différentes, avec des ambitions différentes. Mais ce suspense de savoir est-ce que oui ou non ils vont finir par se retrouver, et avec une ribambelle de comédiens. Il y a du monde, hein, parce que j'ai essayé de voir tous les noms. Il y a cette dame qui a une centaine d'années, Madame René.
Chacun cherche son chat.
René Le Calme.
René Le Calme. Chacun cherche son chat. Qui malheureusement nous a quittés, mais qui est présente dans ce film. C'est un moment extrêmement émouvant. Et d'ailleurs, vous êtes très touchant quand vous lui parlez à cette dame. C'est-à-dire que vous êtes.
Par téléphone?
Ouais, vous êtes ému de.
Mais alors, ce qui est drôle, c'est qu'on n'a pas du tout fait la conversation, elle et moi.
Ah bon?
C'est que ouais, c'est Cédric Lapiche qui me donnait la réplique de l'autre côté, et ensuite il est allé filmer René.
Parce que c'est ce qui est formidable, c'est que la douceur, la fragilité de sa voix versus votre émotion de dire non mais moi je suis sur une plateforme mais je suis quand même touché par cette dame là.
Ouais, il y a de l'humain au milieu de cette plateforme.
Eh ben bravo.
Eh
ben
bravo.
Ça ne fait que rajouter.
Mais je savais que ça allait être René qui allait le faire, donc je l'imaginais.
Évidemment. Non mais c'est super, c'est vachement bien. Ça s'appelle Deux Mois, le nouveau Clapiche. Anna Girardot, François Civil sont avec nous jusqu'à 12h30, et tout de suite c'est Marine.
Ok les amis. Alors, hier après-midi, je me baladais et je croise deux jeunes gens en train de manger des kebabs et de boire des sodas. Et là, mon mari me dit cette phrase de personne âgée. Je me rappelle quand je pouvais manger un truc comme ça l'après-midi, c'était un goûter. Aujourd'hui, si je mange ça, ma journée se termine. Et il a raison. Tu mangeais ça dans la rue, debout, et ensuite, tu continuais ta vie. Tu disais pas, excusez-moi, il faut que je m'allonge parce que je transpire des sourcils, là, en fait. Et le problème, c'est qu'on vit une époque où non seulement en vieillissant, il y a plein de trucs que tu peux plus manger pour toi, mais là, il y a plus le temps passe, plus il y a des choses qu'on ne peut plus manger pour la planète. On en a parlé tout à l'heure. Tout a des ramifications. On n'a plus le droit d'être insouciant. Et j'ai essayé de faire un tour d'horizon des trucs qu'on peut plus manger. Et si tu vas un peu au fond des choses, c'est compliqué.
C'est long.
Bah déjà on le sait, tout le monde le sait, personne ne le fait, mais on le sait, pas de viande. Bravo à ceux
qui
le
font. Comment ça, personne ne le fait ?
Pas assez de gens, disons.
François Civil, déjà.
Bravo à vous. Pas de viande, attention, pas de poisson non plus. Hein, la pisciculture, ça pollue, sans parler du plastique dans les poissons, évidemment. En moyenne, dans un thon, je crois, il y a 2 volants de Twingo, ce qui est énorme. Beaucoup trop par jour. Les poissonneries commencent à recycler les carcasses de poissons dans la poubelle jaune. Avec 16 saumons, tu peux refaire un pack de Kézak. Enfin, ça vaut la peine, voilà. Donc pas de produits animaux, très bien. L'avocat, on n'en parle même pas. Le drame écologico-politique que c'est en train de créer. Chaque fois que tu manges un avocat, c'est comme si tu strangulais de tes mains un enfant mexicain. Je les entends, moi, au marché, si tu tends l'oreille quand tu tâtes les avocats, il y a une petite voix qui dit « Non, por favor !» Donc ça, c'est pour la planète. Très bien, il faut manger vegan, local et de saison. Très bien. Attention, les plantes, ça pollue aussi. Moi, je voulais remplacer, par exemple, le lait de vache par d'autres trucs. Le lait d'amande, pas du tout. Il faut utiliser l'équivalent de l'étang de taux en eau pour obtenir 1 litre de lait d'amande, donc c'est possible. Le lait d'avoine, vous vous dites. Eh bien, je vais vous répondre ce que m'a dit ma naturopathe. Vous mangez des céréales ? Blé, riz, avoine. Ouais, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Je sais même pas ce que je dois faire avec ça. Je ne sais même pas quoi vous dire. Donc, je vais finir par commencer. Tu sais, comme une Californienne quand je suis au resto, est-ce que je pourrais avoir la salade de tomates ? Mais sans tomates, ouais. Vous demandez, je sais pas, vous demandez. Parce que vous saviez que les tomates, c'est inflammatoire, j'ai appris ça. Je sais même pas ce que ça veut dire, mais j'ai plus envie d'en manger. D'ailleurs, il y a plein de régimes anti-inflammatoires, alcalins, paléo, tout ça, qui sont tous probablement pas très utiles. Mais à la fois, quand tu lis les symptômes que c'est censé soigner, tu peux pas ne pas te reconnaître, tu vois. Vous arrive-t-il d'être fatigué ? Oui. Vous arrive-t-il de vous couper avec du papier ? Oui. Vous arrive-t-il parfois d'avoir un excellent contre-argument dans une discussion un peu animée et de ne pas vouloir couper la parole de la personne qui a tort pour ne pas passer pour un trou du cul, mais alors que vous avez attendu poliment et que c'est votre tour, vous avez oublié votre brillant contre-argument et vous finissez par dire « Ouais, après... Non, mais je vois ce que tu veux dire. Est-ce que ça vous arrive ? Oui ! Alors vous souffrez probablement d'intolérance alimentaire. Oh non, mon Dieu, mais qu'est-ce que je dois manger ? Eh bien, vous devez arrêter tout ce qui a une ombre. Ah bon, d'accord. Alors, évidemment, il y a toujours des gens qui relativisent, qui essaient de détendre. Ouais, ça va, il y a des périodes où on avait la peste, ok. La peste ? La peste, c'était un problème. Est-ce que vous savez seulement ce que ça fait à votre organisme, le gluten ? Vous vous souciez, ça ? Non, pas du tout. Et encore, je vous dis ça, sûrement dans quelques temps, on dira le contraire. Il y aura des milliardaires qui auront des glutleurs, des butlers qui seront uniquement dévoués au fait de rajouter du gluten dans leur bouffe parce qu'on se sera rendu compte que c'était essentiel. Bref. Et ensuite, il y a des schismes. Il y a des gens qui mangent que du cru et qui sont là, ah ouais, toi, tu fais cuire tes aliments. Bah, autant aller vivre à Fukushima direct si vraiment tu t'en fous de ton corps, quoi. Et il y a des gens qui mangent que du cuit et tu les compares, les deux. Et tu sais pas qui a raison. Parce que les deux, ils se ressemblent un peu. Tu sais pas qui a l'air plus en meilleure santé. T'sais, ils portent de la polaire, ils ont bonne mine parce qu'ils font de la rando. Et en même temps, les gens trop sains, ils ont des têtes un peu de vieux enfants. Tout ça. Ils dégagent une sexualité proche de la branche. Ouais. T'as l'impression qu'ils se reproduisent en bourgeonnant. Ça donne pas envie. Et une fois que t'as navigué tout ça, il faut évidemment aller acheter ses denrées. Alors, il faut y aller à pied, évidemment. Hein. Il faut idéalement pouvoir payer en troc ou en cash. Ouais. Mais, hein. Et évidemment, aller dans un magasin sans emballage, de produits en vrac. Alors, tu peux amener tes propres Tupperware, mais idéalement, tu viens juste avec plein d'amis qui joignent leurs mains comme ça. Martine, tu prends les lentilles. Jérôme, tu prends la tisane de sauge. Et vous rentrez à la maison à pied sans prendre l'ascenseur, évidemment. Bref, si dans les gens qui nous écoutent, il y a comme moi des gens chez qui la culpabilité, c'est un peu un artisanat familial, hein, dont on raffine la technique de mère en fille depuis des temps immémoriels. Moi, j'ai lu un truc qui m'a un peu détendu ce week-end et qui disait, pour sauver la planète, on n'a pas besoin de quelques personnes qui mènent des vies parfaitement écolo, on a besoin de beaucoup de gens qui le font de manière imparfaite. Ça et la chute du capitalisme. Mais oui, essayons par ça. Ouais, commençons par ça.
France Inter, Nagui, la bande originale.
Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte est la complainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres. Qui pourrait être le vôtre, j'en dis si on vient d'ailleurs.
La complainte de deux cœurs, c'est vrai que ça pourrait être aussi la baseline de ce film, Deux mois. Gloria Lasso, cette histoire d'un amour, pardon, qui vous accompagne et c'est amusant parce que ça pourrait être un trait d'union aussi. Et la musique est très importante parce que la musique sera peut-être la solution de beaucoup de ces problèmes.
Merci, mais rien dire.
Voilà des moments clés, une des musiques clés du film Deux mois de Cédric Lapiche. Pas s'empêcher de danser, Anna Girardot, quand elle entend ça, évidemment. Impossible. La musique dans vos vies, justement, la bande originale de vos vies, on va commencer en 92. Anna, vous écoutiez.
Yes, I'm a mama's boy. Girls like to think I'm spoiled, 'cause I wandering all the time.
Quelles images voyez-vous en écoutant cette musique?
Alors évidemment, je comprenais pas les paroles en 92, mais il y a.
J'aime bien ce petit côté. Elle avait 4 ans, c'est vrai. Parce qu'il y a plein de gens qui voilà.
Mais
j'aurais pu comprendre les paroles en 92.
Mais en réécoutant cette chanson, j'ai l'impression de repartir dans les années 90. Qu'est-ce qu'il y a quand tu écoutes?
C'est vrai qu'en 92, on peut comprendre les paroles.
Oui, c'est ça. All I want, is pussy. Give me some affection.
Non, on précisait simplement que vous aviez 4 ans, c'est tout.
Mais... En 92?
Ouais. Oui.
Ah!
Ouais. C'est pour ça que vous ne
comprenez pas. C'est
non, parce non. que t'as dit.
C'est un moment très gênant, la radio.
Évidemment, je comprenais pas les... Tout va bien. T'as dit, évidemment, je comprenais pas les paroles en 92.
Ouais.
Mais on savait pas que t'avais 4 ans en 92.
Voilà.
On aurait pu dire, en fait, elle avait 18 ans en 92. Mais
on a toujours besoin d'un François Civil pour expliquer la
ouais,
situation.
François,
expliquer les blagues, c'est quand même très très relou. Alors,
ça prouve que c'est une mauvaise vague. Déjà, c'est vous qui avez pas ce match.
Attendez, mais du coup, on peut revenir à ces paroles?
Non, on va oublier.
Est-ce que c'est d'accord?
Allez, continuez d'avancer.
Mais dans quel contexte vous écoutiez ça à 4
ans? Non, justement, c'est juste qu'en écoutant cette chanson, je repasse. J'ai l'impression d'être dans les années 90.
C'est ça, ça tombe bien, c'est ça.
Passons à la prochaine chanson.
Non, mais en tout cas, 92, Anna, c'est votre apparition au cinéma, vous faites vos premiers pas, on va dire, dans un film de Diane Curis. Le film s'intitule Après l'amour. Votre père est présent dans le casting. Est-ce que vous avez un petit souvenir de ça, 4 ans? J'imagine que c'est compliqué.
Aucun
ouais.
souvenir. Rien. Ouais,
c'est triste. Isabelle Huppert sur le tournage.
Non, je sais que c'était très rigolo à faire et que j'étais très sage et que j'ai très bien fait le job, mais j'ai aucun souvenir de ça.
Musique avec celle qu'écoutait dans les années 2000 François Civil.
Cette soirée-là,
ouais gros.
Je vous assure, il y avait un ouais gros au milieu.
Évidemment,
je suis obligé. Très calme. Ouais gros.
Moi j'aime bien.
Mais qui est devenu Yannick? On a peu de nouvelles.
Il doit faire la tournée.
Écoute,
des
stars. Est-ce que ça c'est une mauvaise nouvelle ou pas?
Et vous François, début 2000, on vous retrouve pour les premières fois au théâtre. En tout cas, vous commencez à jouer au théâtre dans le cadre de l'école. Je crois que c'est au collège.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Dans le 12e, qui est un peu votre fief. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez accepté de mettre les pieds dans ce cours-là?
Eh bah, c'est Yannick, hein. Mon dragon branche, toi-même, tu sais pourquoi. Et bah, moi, clairement, j'ai joint le cours de théâtre du collège parce qu'il y avait une fille que j'aimais bien dedans, quoi. Donc, un peu comme moteur de tout dans la vie, quoi, la séduction. Et j'y suis allé et ça n'a pas fonctionné avec la zoulette en question.
Mais, la zoulette.
Oui, zoulette, la demoiselle.
En revanche, vous avez eu la chance d'avoir une directrice de casting dans la salle.
C'est ça, avec celle-là ça a fonctionné.
Une zoulette, ouais.
Ouais, qui est une autre zoulette, qui était un peu plus âgée que moi à l'époque, mais toujours pareil d'ailleurs.
Qu'est-ce que je raconte?
Ça n'a pas changé.
Mais du coup, c'est tombé amoureux d'elle?
Non, pas du tout.
Ah bah non, mais vous dites ça a fonctionné avec elle. Donc
oui, ça a fonctionné professionnellement.
Casting.
Voilà,
ah,
exactement. Elle m'a proposé de passer un casting à l'issue de la représentation. Waouh, ok, on s'en sort.
Moi, à la base, c'était un sketch, mais je pense que c'est peut-être vrai ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein.
En 2009, Anna Girardot, vous écoutiez. Oh. Bien. Après, Want You Pussy, ça devient Juicy. Comme ça, au moins, on est dans la série Notorious Big. Avec ce titre-là, cette musique-là vous renvoie à vos années new-yorkaises ou...
Ouais, j'habitais dans le Queens, à Long Island City. Et je faisais des cours de théâtre là-bas. Et j'enchaînais un peu les petits boulots. Et je suis devenue indépendante et je faisais ma vie et j'étais au top de ma life.
Puisque on parle de la solitude dans les grandes villes parisiennes avec le film de Clapiche, est-ce que vous avez vécu la solitude dans la grande ville new-yorkaise ou pas?
New York, non, parce que quelque part, on rencontre toujours des gens partout où qu'on aille. Il y a quelque chose comme ça dans la surcommunication entre les gens et les populations. À Los Angeles, ensuite, j'ai ressenti ça très très fort. Ouais, on était deux là-bas et pourtant on était très seuls. C'est terrible comme les gens sont distants et à partir du moment où on connaissait quelqu'un, tout d'un coup il y a un espèce de chaînon et de réseau qui se fait. Mais à New York c'est pas pareil, les gens parlent ensemble. les communautés vivent ensemble.
Et on vous retrouve en 2009 à l'affiche de Simon Werner a disparu. Le réalisateur Fabrice Gobert était désespéré. Il faisait passer un casting assez grand. Il avait vu beaucoup de candidates. Et il cherchait une fille à papa, très méprisante et hautaine. Et il vous a Anna choisi.
Salut.
Ça fait plaisir.
Voilà.
C'est un rôle de composition donc.
Voilà. Quant à vous, François, on cherchait un gros bouffe.
Non, parce qu'en fait, c'est un film hyper important parce que c'est avec ce film-là qui est présenté, qui est sélectionné à Cannes, aussi tout d'un coup qu'on vous découvre et que même votre père réalise que vous avez vraiment envie d'être comédienne.
Non, c'est vrai, mais c'est vrai que ce rôle était loin de ce que j'étais et en même temps, voilà, on me demandait de l'interpréter, j'avais plus ou moins compris comment elle fonctionnait. Mais je me souviens qu'à Cannes, quand on a présenté le film, on m'a donné une série d'interviews à faire avec des journalistes et à chaque fois, il y avait une sorte de déception dans leurs yeux de voir que j'étais pas du tout le personnage, j'étais super timide et gentille et souriante et qu'ils attendaient pas ça. Mais j'ai adoré ce film, j'ai adoré travailler avec Fabrice et c'était c'était mon premier casting quand je suis revenue de New York et j'étais mais surmotivée. Je voulais la voir.
Est-ce que de jouer des rôles, de se mettre dans la peau d'autres personnages est une forme de psychanalyse ou pas, puisqu'on est autour de la psychanalyse avec deux mois, de rentrer dans un autre caractère, dans une autre manière de voir la vie ou une autre forme de douceur ou d'agressivité d'ailleurs, enfin bon, tout est valable. Moi, c'est ça votre luxe au cinéma.
Ouais, totalement, ouais. À chaque fois, moi c'est un truc que j'aime de plus en plus, la préparation d'un film et du coup d'un personnage, parce que c'est là qu'on fait des découvertes en fait. Après quand on tourne, on est dans le jus, il faut que ça avance et tout, mais de se mettre dans les bottes de quelqu'un d'autre, ça nous oblige à être un peu plus empathique, à nous poser des questions.
Est-ce qu'on sort indemne de tous ces rôles ou est-ce que ça change aussi ce que l'on finit par être soi?
Ça change qui on est, mais c'est normal, mais comme toutes les expériences de tout le monde dans la vie, on est des êtres changeants sans arrêt. La bonne liaison.
Ça l'allait bien.
C'est impeccable.
Bonne liaison. En 2009, François Civil, vous écoutiez. Thank you, mama, for the 9 months you carried me through. All those pain and suffering. No one knows the pressure you bear, just only you. Give you all my love. Sizzla. Là, qu'est-ce que vous avez comme image avec ce titre? À part une espèce de nonchalance et de...
Ouais, un zouk un peu tropical. Cool, il y a un chaloupé, quoi. Il y a une noix de coco, il y a quelque chose.
C'est juste l'image, c'est ça l'image.
C'est l'image que ça m'envoie. Ouais.
Ok.
Voilà, une noix de coco. Voilà.
Et bien sinon, on
chaloupé de noix de coco. C'est pas possible.
Et puis en parallèle de ce chaloupé de noix de coco, donc François Civil.
C'est un joli surnom, ça.
C'est un super pseudo, chaloupé de noix de coco.
On sort avec ses mots.
75.
Chaloupé de noix de coco sort sa mixtape.
75-012.
Recherche une zoulette.
Ouais. Oh, on a l'album, heureusement. Ouais.
Qu'on veut garder comme Zanny. Hein.
On va retrouver à la fin, soit je meurs, soit je vais mieux.
Pardon, c'est le cas.
Pardon. Et c'est un film aussi qui est important dans votre filmographie, François Civil, parce que là aussi.
Là aussi quoi?
Allez, à vous, François. Allez, il faut qu'on soit prêt.
Non, mais c'est aussi un film qui vous permet d'être découvert aussi. Vous avez fait de la télévision un peu avant.
Et l'histoire d'un ado qui a du mal aussi.
Oui, elle cherchait un ado ingrat avec la peau malade, comme Anna, hein, à chaque fois c'est des rôles vraiment, on nous attend sur des trucs horribles. Mais
Non mais il est important aussi parce que vous êtes prénommé au César,
ouais.
En meilleur espoir masculin, et je crois que vous avez le droit de choisir un parrain
pour
la soirée,
ouais, en effet, ouais.
Et vous avez choisi Cédric Clapiche.
Exactement, qui a gentiment accepté. Ouais. Mais j'étais tellement intimidé que j'ai pas osé lui dire deux mots de toute la soirée.
Donc c'est une vraie rencontre là, c'est votre premier film, on va dire.
Dingue, première soirée,
et puis là, c'est dingue.
Ouais, mais bon.
En 2009. Ouais. Et ça, en fait, le morceau qu'on écoute, c'est le générique de fin du film, de Soit je meurs, soit je vais mieux.
D'accord.
Et qui était un morceau que j'écoutais pendant le tournage, je crois, avec la maquilleuse le matin. Et Laurence Ferreira-Barbosa, qui a réalisé, est passée un matin, elle a dit ah, c'est cool ça, et elle a décidé de le mettre à la fin du générique. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment un truc très collectif, un film, et que c'était tout le temps vivant, quoi, et qu'on pouvait apporter des petites pierres et que là la maquilleuse écoutait ça et d'un coup c'est le générique de fin, quoi.
On va passer en 2014 au théâtre pour Anna Girardot, vous écoutiez. There's a road I know I must go. Alessi Brothers. Even though I tell myself that road is closed. qui est pas du tout une musique de 2014. Vous l'avez trouvé comment celle-là, ce titre-là?
Mais non, parce que j'écoute que des vieux morceaux.
Sur,
et que...
sur les plateformes ou sur les des vinyles que vous retrouvez?
Alors j'ai des vinyles. Mes parents me donnent leurs vinyles.
Si vous rendent.
Et ensuite, ouais, via Internet, je préfère me balader sur ce qui se passe que les chansons actuelles. Il y a la radio pour ça.
Et cette musique correspond à quoi?
Cette musique, je pense que c'est ce que j'écoutais avant de monter sur scène. Nicolas Briançon m'avait offert le rôle de Juliette au théâtre. Et je crois que ça me repose, cette chanson. Ça te fait un peu planer, ça te fait rêver.
Vous mettez en condition avec la musique pour vous mettre dans la peau d'un personnage avant, ouais. Un peu. On avait fait ça la semaine dernière avec les joueurs de foot qui ont des casques avant de rentrer sur le terrain. On leur avait demandé leur BO, quoi. Qu'est-ce qu'ils écoutent avant de rentrer pour se mettre en condition à rentrer sur le terrain.
Et
mais
ouais,
les comédiens aussi se mettent, ont une BO. Je parle pas de la BO du film, hein, la BO du conditionnement de leur personnage.
Mais c'est vrai, moi j'ai vu un reportage sur Serena Williams l'autre jour et on la voit toujours avec son casque avant d'aller sur le terrain. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle écoute? Parce que c'est intéressant, la musique c'est tellement un véhicule d'émotion. Ça peut tout d'un coup te donner une force énorme. Avant d'aller à une réunion de travail par exemple, t'as besoin de te mettre un espèce d'Eminem super fort pour te mettre en condition. Et en même temps, il y a quelque chose qui peut t'emmener dans la mélancolie. Et il y a des gens qui ont besoin aussi d'avoir un peu de chansons mélancoliques. Est-ce qu'on aime bien cette sensation aussi? Et pour les personnages, je trouve ça intéressant de faire une playlist.
Vous aussi, François?
Moi, pareil, une playlist par personnage parce que c'est trop puissant, quoi, pour se mettre dans un état. Et je repense quand j'avais fait le chant du loup, notamment, où j'avais un casque sur les oreilles, où j'étais censé écouter les fonds sonores.
J'avais demandé à une oreille parfaite dans le film.
J'étais une oreille d'or. Mais j'avais demandé à l'ingé son de me mettre des morceaux de musique que j'avais préparés. Donc on croit que j'écoute les fonds marins et en fait je m'étais mis des petits morceaux pour m'aider à jouer. Parce que j'ai besoin de béquilles.
Et c'est une première pour vous au théâtre, si je reviens à l'année 2014, Anna, avec cette pièce, donc Roméo et Juliette. Vous aviez déjà fait beaucoup de théâtre aux États-Unis. Mais en France, c'était quand même la première fois.
Oui, alors non, aux États-Unis, j'avais une coach d'acting. Ouais, et donc, c'était plus pratiqué, du travail de scène. Mais monter sur une scène de théâtre comme ça, c'était vraiment ma première fois. Et je sais que Nicolas Briançon me disait, t'es complètement inconsciente et c'est génial, garde ça. Parce que j'avais pas peur, j'avais vraiment envie de monter sur scène. Ça me faisait plaisir. Mais après coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Oh là là, mais c'est terrible, il y a des gens qui viennent voir ça tous les soirs. Mais... Et d'un coup, on prend conscience de ce qui se passe.
N'avez pas recommencé depuis?
J'ai pas recommencé, mais j'aimerais beaucoup. Oui, j'aimerais beaucoup.
Attends que Nicolas Briançon lui propose quelque chose.
Voilà, Nicolas.
Message est passé, Nicolas. François Civil, vous écoutez à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est la BO de France,
c'est le nom du groupe, ouais, exactement, ouais. C'est les Saurons. Vraiment, ça s'écrit comme ça, je crois qu'il y a...
Il y a PRFBS à la fin.
Ouais, voilà, donc c'est à peu près ce que j'ai fait, je pense, en termes de
scénario. Saurons.
Ouais, voilà. C'était le nom du groupe dans un film qui s'appelle Le Frank, de Lenny Abrahamson, que j'ai fait à cette époque-là, c'est ça?
Ouais, vous incarnez Jean Barak.
Jean Barak, ouais, le bassiste français du groupe qui dit pas un mot,
qui
parle sans français, ouais, carrément. Mais c'était une expérience de fou parce que c'était déjà, moi je trouve que c'est un super film avec un très beau scénario, très original, très bizarre, un peu inclassable et surtout un casting totalement dingue. Il y avait Michael Fassbender, Maggie Gyllenhaal, Domhnall Gleeson.
Et quand on accepte un projet comme ça, on peut pas savoir sur le papier ce que ça va donner, c'est impossible.
J'avais aucune idée, j'étais terrifié. Surtout que je parlais pas très bien anglais à l'époque et mon premier rendez-vous c'était à Dublin. Et je m'étais un peu chauffé quand même 2 mois avant de regarder des trucs en anglais et tout. Et je me souviens de mon trajet de taxi entre l'aéroport et l'endroit où je vais rencontrer tout le monde, donc j'étais en ultra stress. Et le chauffeur de taxi m'a parlé pendant tout le trajet, j'ai pas compris un mot à cause de l'accent irlandais. Et du coup j'ai eu une espèce de montée d'angoisse dans le taxi. Je suis arrivé là-bas et ça s'est calmé parce que du coup c'était un peu plus... Enfin voilà, il y avait
Vous avez fait comme les psys, vous avez fait
Ah ouais, je crois, mais petit à petit la voix devenait de plus en plus aiguë, tellement le corps s'y serrait.
2 mois, le film sort ce mercredi 11 septembre avec Anna Girardot, François Civil entre autres, mais également François Berléand, Camille Cotin, Simon Abkarian. J'insiste, qui est déjà un génial, mais aussi qui a un rôle clé dans le film, vous allez vous régaler. Eye Haïdara également. On a dit tout à l'heure, Alain Mergier, merci de venir à ce micro, vous êtes sociologue, on a parlé de la solitude des grandes villes. Est-ce qu'on est de plus en plus seul dans ces grandes villes ou ça a toujours été le cas finalement, que ce soit dans les années 70, 80, 90?
La solitude est une des caractéristiques des grandes villes. Urbaines, des grandes villes. Ouais. Hein. Alors, est-ce qu'on l'est plus? En fait, oui. On l'est plus et on l'est un peu différemment. C'est-à-dire, on est de plus en plus vulnérable à la solitude. C'est-à-dire qu'il y a des solitudes qui sont transitoires, qui peuvent être très profondes, et qui sont, à un moment donné, dans une période de vie, et qui peuvent vous atteindre, mais très profondément.
Mais pourtant, il n'y a pas un troquet, une terrasse qui soit vide à Paris. Je suis toujours bluffé quand on marche dans Paris, de voir qu'il y a toujours du monde partout, à toute heure. Donc on se dit qu'il y a du partage, on se dit que c'est quand même un lieu de rencontre, de rendez-vous.
Il ne faut pas confondre la solitude et l'isolement.
C'est-à-dire que... Déjà, Nagui.
C'est une nouvelle langue pour moi, le français, donc j'apprends. Quelle est la différence?
C'est pas faux.
Non, vous pouvez... le film le montre très bien. Vous avez deux personnages qui sont... seuls, enfin qui vivent une souffrance de la solitude.
Mais qui ont une vie sociale quand même.
Mais ils sont tout côte à côte. Ils vivent l'un à côté de l'autre. Ils se croisent, ils n'arrêtent pas de se croiser. Ils sont très proches, en fait. C'est pas parce que vous êtes proches que vous n'êtes pas seuls. Et les grandes villes, au contraire, sont des endroits, sont des lieux où il y a une masse de gens rassemblés en très grande proximité. Il n'empêche que on peut vivre dans cette situation-là quelque chose qu'on va ressentir comme une souffrance. Je voudrais juste préciser une chose, c'est que la souffrance, parce que c'est une souffrance la solitude, c'est pas quand on ne peut pas compter sur l'autre, c'est un degré de solitude, mais c'est surtout quand personne ne peut compter sur vous ou n'a envie de compter sur vous. C'est là où il y a une véritable souffrance de la solitude.
Donc ça ne vient pas de l'architecture des grandes villes, c'est pas un problème d'urbanisme, c'est pas un problème de décision de politique ou de mairie, c'est plus profond que ça.
On peut
être voisin et
Oui, tout à fait. Non mais il y a de multiples facteurs dans les villes où il y a des la question des villes, c'est aussi la question de l'espace public. Ouais. L'espace public on pourrait le définir d'une façon on manque peut-être d'endroits, de lieux où on n'a rien à faire. C'est-à-dire que
Radio France, c'est assez grand et on fout pas grand-chose. Radio France.
Si vous entendez par
là, faudrait plus.
Si vous entendez par là des zones piétonnes, des quais, des parcs où on puisse se balader, la technologie justement que nous aimons tous. Hein, je suis pas en train de la diaboliser.
Ouais,
merci. Que ce soit les réseaux sociaux ou les écouteurs, on peut être. Vous allez à New York justement dans le parc, dans Central Park. Tout le monde est là avec ses écouteurs en train de courir ou de se balader en étant coupé du monde.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on est coupé et relié au monde. Le problème des réseaux sociaux, les réseaux sociaux, parce qu'il y a des choses très différentes. C'est une façon, en fait, de surexposer les individus à la vie et à, je dirais, au regard de l'autre. Et donc, on est sur les réseaux sociaux, on est tout le temps en train de devoir réaffirmer ce que l'on est. Mais c'est jamais acquis. Les likes, enfin, il faut se faire liker en permanence. Mais vous n'êtes pas liké une bonne fois pour toutes. Il faut recommencer tous les jours. Il faut recommencer. Donc c'est un travail, ça demande des compétences particulières. Et celui qui n'a pas ces compétences-là, ou celui qui est faible, comme dans le film François, il est faiblard de ce côté-là. Il n'y a pas toutes les compétences qu'il faut. Eh bien, là, il peut ressentir cette solitude-là.
Est-ce qu'il peut y avoir un impact sur la santé? Être seul, est-ce que
bien
c'est...
Bien sûr, bien entendu. L'impact, la solitude renvoie à des formes plus ou moins développées, plus ou moins puissantes de dépression.
Ouais.
Et la dépression...
C'est ce que l'on voit dans le film aussi.
Oui, et c'est quelque chose qui vous ravage, bien entendu.
Est-ce que on peut faire des rencontres, c'est ce qu'on voit aussi dans le film, et rester seul, malgré toutes les rencontres que l'on peut faire, ce qui est le cas de Mélanie dans le...
Bien sûr, le personnage c'est Tinder, d'accord. Donc vous pouvez rencontrer des gens, effectivement, c'est pareil. Vous pouvez côtoyer des gens, y compris dans votre lit, sans qu'il y ait véritablement un échange.
Il y a un moment où il y a un monde fou,
vous êtes sur Tinder, vous, ou pas?
Non.
Ça va pas, non?
Je me renseigne.
Mais si vous voulez, je peux vous donner mon numéro de téléphone.
Non, voilà.
Mais avec grand plaisir.
Cette pudeur, Daniel.
Dernière question, est-ce que c'est suspect? Est-ce qu'on voit d'un mauvais œil quelqu'un, entre guillemets, qui est seul?
Ah, c'est une maladie honteuse, bien entendu. C'est une maladie honteuse, très honteuse. Bien entendu.
Et pourtant.
Et on peut même se demander si ça s'attrape ou pas. Non, c'est une.
Ce qui est un cercle vicieux. On ne fréquente pas les gens seuls.
On n'en veut pas des gens seuls. On n'en veut pas. Enfin, faut vraiment avoir. C'est très compliqué d'ailleurs d'aborder des gens seuls.
C'est la spirale de l'échec.
C'est une. Oui. Il y a quelque chose dans le film. On le voit. Hein, encore une fois, il y a quelque chose qui destine ces deux personnages à rater les relations les dans lesquelles il a raté les occasions, a raté la relation avec l'autre.
Donc en clair, pour le sociologue que vous êtes, c'est un bon film en fait.
C'est un bon film, c'est un film qui dit juste, qui dit. Il y a un truc très important que vous avez dit tout à l'heure, hein, d'ailleurs, c'est la question de la parole. En fait, on peut le résumer en faisant un jeu de mots. J'espère que ça va passer. Il faut mettre des mots sur les mots, si vous voulez.
MAUX, voilà.
C'est excellent. Voilà, exactement. Et ça, c'est dans le film.
Merci beaucoup d'être venu à notre micro, Alain Mergier, Tanguy Pastureau. Bonjour. Oui. En Inde, une femme de 74 ans a accouché.
Oui, de jumelles. Et c'est super pour les petites parce qu'à 5 ans, elles vont pouvoir faire le mur et fumer du shit. Leur mère sera trop âgée pour leur courir après. Alors, la dame, depuis 57 ans, essayait d'avoir des enfants. Elle a eu 58 800 rapports, ce qui lui a valu un hot d'or en 87. Clara Morgan, en 2002, déclarait « Je lui dois tout ». Enfin, ça a marché, Nagui. Elle va en profiter deux belles années avant de clamser.
On en reparlera après un bout de midi. Avec les
Bonjour.
Marina Waldman,
Daniel
Morin, Tom Villa, Tanguy Pastureau et nos invités Anna Girardot et François Civil. Avec ce projet dont vous nous aviez, enfin c'était un projet à l'époque, maintenant c'est un film qui sort ce mercredi, dont vous nous avez parlé il y a pratiquement un an et demi, l'un et l'autre quand vous étiez venu à ce micro pour d'autres films ou d'autres sorties, il y avait le nouveau Clapiche qui allait arriver. Autrement dit, vous êtes au courant depuis vous très longtemps. Est-ce que déjà, par exemple, sur le film où vous jouiez avec Pio Marmaille, il vous en avait déjà parlé, Anna Girardot.
Non, il nous avait parlé de projets qu'il avait d'écriture. On n'avait aucune idée de ce que c'était. Et 6 mois plus tard, Cédric avait déjà fait une tentative d'écrire un autre film. Et puis finalement, ça s'était pas fait. Donc il y avait cet autre scénario qui traînait. Et il nous a appelé avec François en disant, écoutez, j'ai un scénario à vous faire lire. C'est peut-être pas pour vous les rôles, mais dites-moi ce que vous en pensez. Et évidemment, on avait très envie de le faire et on s'est.
Mais c'est quand même, c'est presque sur mesure, non? J'ai l'impression quand même.
En fait, il l'avait écrit pour nous.
Bah oui, mais il voulait pas le dire.
Oui, mais sauf que quand on vous voit, Anna, dans tous les autres films, moi, à chaque fois, je suis toujours heureuse de vous voir parce que vous avez un côté hyper ensoleillé, solaire. Il y a un truc très joli chez vous, très lumineux. Et là, on vous retrouve dans ce personnage et on se dit, oh là là, ça va être raide. Et en fait, ça passe. Non, mais je peux comprendre qu'ils se disent, a priori, un personnage aussi terne, ça peut pas être pour vous au départ.
Bah non, parce que finalement, une fille qui est dans cette position, elle est malheureuse comme tout au début du film, qu'elle soit terne ou pas terne, moi aussi, j'ai eu des moments où j'étais comme Mélanie, où je me sentais mal. Et donc finalement, il m'a juste demandé de me plonger dans cette partie de moi pour jouer le rôle. Mais on peut tous être une Mélanie ou un Rémi.
Est-ce que physiquement, vous êtes allé chercher des positions, des postures, peut-être un maquillage ou une absence de maquillage pour être le plus proche possible de la réalité, François?
Bah, en l'occurrence, moi, mon personnage, il est totalement insomniaque, il dort 2 heures par nuit, donc forcément, en cherchant un peu, on se rend compte que c'est des trucs qui ont des conséquences un peu lourdes sur l'esprit et sur le corps. Donc oui, il y avait des trucs un peu de posture, de rythme, de décalage dans les réponses. Et après le maquillage, on a fait un truc très minimaliste et parfois on a marqué un peu les cernes que j'ai.
Ouais, on peut pas dire. Et vous êtes tous les deux de beauté du cinéma français. On peut pas dire que vous soyez mis en valeur esthétiquement. C'est-à-dire que c'est pas le film avec la beauté des comédies romantiques avec le halo de lumière derrière et tout ça. On n'est pas du tout là-dedans.
Non, mais ça va quand même. C'est pas roubé.
Non, mais la maquilleuse.
C'est pas roubé une lumière non plus, quoi. Je veux dire, c'est pas.
Non, je dis pas qu'ils sont moches.
Ils sont les deux, là.
Non, mais non. La preuve ici, c'est qu'ils sont naturellement beaux. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas mis en valeur comme on peut l'imaginer au cinéma, quoi. Mais il faut l'accepter aussi quand on fait ce genre de film, j'imagine.
Bah, ça fait partie du package, hein, de se dire. Après, c'est des personnages qu'on prend au début du film, à un moment où vraiment ils vont pas bien, ils sont bloqués. Donc là, je pense que ça se ressent beaucoup, mais petit à petit, ils font le chemin, notamment à travers la psychanalyse, pour aller mieux. Et je pense qu'à la fin, on était un peu maquillés.
Alors c'est vrai qu'il y a les écrans qui sont. Enfin, tout est à base d'écrans. Il y a les écrans dans la main, il y a les écrans d'ordinateur sur lesquels vous travaillez. Il y a entre guillemets l'écran de la fenêtre vers l'extérieur. Il y a beaucoup de vues comme ça sur. Et sur Paris, mais sur l'extérieur aussi.
Et puis il y a une gare, c'est toujours très touchant, les gares. Ouais. Dans un film, c'est toujours le lieu où on se dit que tout est possible. On peut partir, on peut aller vers un ailleurs. Et pourtant, vous êtes là, emprisonné Il y a cet immobile. Élan dehors, il y a juste à le saisir, et puis vous ne pouvez pas aller ailleurs que dans votre petite case, en fait.
C'est très joliment dit, encore une fois, bravo.
Non, et puis il y a la gare, il y a la barre dans le métro et les microbes qui arrivent juste derrière. C'est-à-dire que le clin d'œil, quand même, il est bien joué entre les microbes.
Pas senti,
Si, c'est ça. On voit toutes ces mains qui se tiennent, qui ne se touchent pas, ces regards qui s'échangent, comme on fait souvent dans les transports en public. C'est-à-dire qu'on invente aussi les vies des autres. Il y a des regards, il y a des sourires. Sourire d'une petite fille qui vous regarde, François Civil, quand vous êtes dans le métro, en train d'être, vous, totalement angoissée. Et presque, elle se veut rassurante, quoi. C'est une enfant qui tend la main ou qui veut vous rassurer la première.
Bah parce qu'elle a ce truc pur où elle est pas encore contaminée
par le calcul.
Non, pas du tout. Mais on comprendra plus tard dans le film pourquoi ce regard, en l'occurrence, moi, me renvoie
vous
à des
touche.
Trucs.
Pourquoi l'enfance vous touche. Ça s'appelle Deux mois, le nouveau Cédric Clapiche avec Anna Girardot, François Civil qui sont nos invités, entre autres. Il y a également Simon Abkarian, François Berléand, Camille Cotin et Eye Aïdara. Voici Tanguy Pastureau. Tanguy, les enfants, c'est bien, mais c'est fatigant.
Oui, ça bouge, ça hurle, ça pue, ça couine et ça coûte du blé. Moi, après mes spectacles, j'ai toujours des gens qui me disent « À cause du coût de la rentrée scolaire, il a fallu choisir entre venir vous voir et scolariser nos gosses. On vous a choisi vous et on a dû envoyer les mômes bosser dans une usine de textile au Bangladesh. » Moi qui suis un humaniste, je leur réponds « Alors très bien, mais pensez au moins à leur écrire une carte postale tous les 3-4 mois, les pauvres. » Oui, les enfants, c'est exténuant. Vous qui en avez 4, Nagui, selon la préfecture de police. 47 selon Force ouvrière. Qui a procédé à un décompte indépendant auprès de vos groupies. Eh ben, on voit bien que vous êtes claqués, parce que parfois, à l'issue de quoi 48 heures non-stop d'enregistrement d'émissions télé, il arrive que vous disiez à vos collaborateurs, les mecs, j'en peux plus, mettez-moi en contact avec les gens qui s'occupent d'Hanouna. Mais pourtant, des enfants, tout le monde en veut. Par exemple, les gays qui naguère avaient une vie de rêve. Brunch, sexe, à nouveau brunch, puis sexe, au point que parfois, ils se trompaient et faisaient l'amour à des œufs brouillés. Ce qui passe très mal au pain quotidien, même quand vous proposez de payer un supplément. Les célibataires veulent des enfants, les couples stériles veulent des enfants, et même les seniors, ces gens qui sont comme nous, sauf qu'ils font le salon de l'immobilier portugais, porte de Versailles, peuvent en avoir. Oui, figurez-vous qu'en Inde, une dame de 74 ans, soit le même nombre d'années qu'il me faudra moi pour avoir l'idée d'écouter Maître Gims, vient d'avoir des jumelles. Au début, quand j'ai lu ça, j'y ai pas cru. Je me suis dit, on lui a offert des jumelles, l'appareil qu'on achète au rayon ornithologie chez Nature et Découverte, en faisant semblant de kiffer les merles, et qu'on utilise en réalité pour mater les nanas en petit slip à la grande motte. Puis, chose invraisemblable sur le net, j'ai cliqué sur le lien et lu l'article complet. Je serai à ce titre décoré de l'Ordre des Arts et des Lettres le 12. Et là, j'ai réalisé que cette Indienne de 74 ans venait d'avoir, elle aussi, des enfants. Alors cette dame s'appelle Eramati Mangayama. Elle est mariée à un monsieur de 82 ans, Yaramati Sitarama Rajayao. Ils habitent Nela Partipudi. Bref, une vie qui leur permet de garder les dyslexiques à bonne distance. Ils sont mariés depuis 57 ans. Ce sont les noces dites de Kouchtena. Et depuis 57 ans, n'arrivait pas à avoir d'enfant. Puis il y a 9 mois, le déclic, Aramati s'est dit « Tiens, je vais essayer d'arrêter la pilule, on verra bien. » Et là, les enfants sont venus, hein, comme la bave vient à la lèvre de Benjamin Griveaux quand on lui parle de Cédric Villani. Donc les journalistes ont demandé à Aramati « Mais pourquoi donc voulez-vous des enfants? Vous avez 74 ans. Faites ce que les gens de votre âge font habituellement. Devenez maire de Lyon. » Elle a expliqué que dans son village, un bled paumé, hein, l'équivalent en Inde d'une commune de la Nièvre. Ses voisins la traitaient de Godralou. Et ça, autant en France, ça n'a pas d'impact. Hein. Si vous dites à quelqu'un enfoiré, communiste, fan de Roland Magdan, ficus moisi dans silence sa pousse, bon, il s'énerve. Mais vous le traitez de Godralou, ça passe tout seul, à part Benalla qui vous attrape, vous assomme, et quand vous reprenez connaissance, vous vous retrouvez dans un octogone avec le visage dans ses fesses.
Mais ça veut dire quoi alors, Godralou?
Eh bien, c'est un terme péjoratif, Nagui, désignant en Inde une dame n'ayant pas eu d'enfant, parce que la pression est forte sur les femmes à ce niveau-là. Même chez nous, hein, passé 30 ans, on vous rappelle matin, midi et soir, et même la nuit, si vous avez une mère juive, que vous êtes sur Terre pour être fécondé. Alors que nous, les mecs, à 40 piges, on n'a pas de gamin, bah tout va bien, parce que soi-disant, on peut semer sa petite graine jusqu'à 70. Ce qui est faux, car depuis les jeans skinny, on a les bourses en permanence à 45 degrés. Pour avoir la température de notre pubis, on regarde la météo sur les chaînes de Dubaï. Donc nos tétards sortent déjà cuits, tel un gratin dauphinois oublié au four. Donc Mangla, cette pauvre indienne, s'est faite inséminer à 74 ans. On sait même pas si c'est avec la semence du père, qui est déjà à la confipote de fraises. Hein, c'est quand on est aux fraises mais qu'on n'a plus de dents. Enfin, c'est n'importe quoi. Là, les gamines sont nées. Dans 2 ans, les parents seront morts. Hein, parce que je rappelle que le papa est un fermier de 82 ans en Inde. Hein, même sous des HEA avec un système de poulies pour le faire tenir debout, Karine Le Marchand au casting de L'Amour est dans le Pré, elle lui dit « Désolé vieux, ça va pas être possible. Par contre, tu vois Roland, ce monsieur qui vit dans l'Aubrac, il élève des chevaux, si tu veux, il peut te rediriger vers un équarisseur. Oh. » Bref, cette histoire, ça va quoi. Faut pas pousser mémé dans les orties, d'autant qu'elle est déjà à la maternité. C'est juste des tests que fait la médecine indienne sur des gens pauvres. Nous, on a des hamsters, eux, ils ont des fermiers. Hein, en 2016, ils avaient déjà fait faire un gosse à une femme de 72 ans. Là, c'est 74. Ah, record battu, Jean-Pierre. Et on apprend que la chanteuse Régine, 89 ans, souhaiterait des triplés. Hein, le donneur Édouard Balladur est déjà à l'étape du don de sperme. On lui a donné un magazine de juin 57 avec en une Denise Glaser en jupe au niveau des genoux. Alors, l'intérêt des enfants ici, non mais tout le monde s'en tape. Hein, parce que le but, c'est juste de faire procréer à terme des gens de 112 ans. Alors, peut-être est-ce génial d'arriver à ça. À Noël, les jumelles diront « Oh, une pomme. Merci, maman. Merci, papa. Merci, mamie. Merci, papy. » Alors qu'il n'y a que 2 personnes dans la pièce. Hein, faire la bise à tout le monde prendra 2 fois moins de temps. Mais vraiment, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour éviter de se faire traiter de godraloup ?
Merci.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
2 mois, le film sort ce mercredi avec Anna Girardot et François Civil. Et dans l'actualité culturelle... Aïe. Cette question sur l'une des scénaristes, et vous pouvez là cette fois-ci essayer de répondre, Anna et François, une des scénaristes du blockbuster américain Crazy Rich Asians vient de démissionner.
Parce qu'elle était payée 1/8 de son co-auteur, un truc comme ça.
Exactement, ouais. Elle est payée 8 fois moins cher que le mec avec qui elle travaille. Genre de choses qui ne devraient évidemment plus exister. Ça fait partie de vos combats, Anna Girardot. Enfin, vous demandez par exemple combien est payé. Non, parce que je voyais opiner de la tête en disant mais c'est pas possible.
Non, mais 1/8. C'est n'importe quoi. De toute façon.
Non, et même 10 euros de moins. Il n'y a aucune raison pour que dans le film de Clapiche, vous ayez 10 euros de moins que François Civil.
On est bien d'accord. D'ailleurs, nous étions payés la même chose. Nous avions demandé la parité.
C'est ce qu'on vous a dit et après. Voilà.
Non, on a vérifié justement ensemble pour être sûr que c'était vrai.
Ces derniers jours, que pouvait faire Tom Cruise en Savoie?
Ah, il faisait du ski, il s'entraînait pour le prochain film Mission Impossible ou
Top Gun. Il pouvait se promener tranquille tout seul.
Il faisait des sauts bêtes encore. Il saute tout le temps dans le
ski. Il a fait du speed flying, ouais, exactement.
Ah oui, c'est un truc avec une toute petite voile, je crois. Ouais.
Tu parles de quoi?
Tom Cruise.
Le speed flying, je sais pas ce que c'est. C'est du. Ouais, c'est du.
Je crois qu'en gros.
Comme un delta plane.
Oui, mais où c'est déjà intégré à la combinaison, non, ouais. C'est pas ça?
Comme en chauve-souris, quoi.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça, ouais, absolument. Quelle entreprise déjà très présente dans notre quotidien vient d'être condamnée à payer une amende de 170 millions de dollars?
Amazon. Apple.
Google.
Amazon.
Non.
Rock Éclair.
Non.
Starbucks.
Non. 170 millions de dollars.
Coca.
C'est pas un GAFA, donc.
Si. Enfin, c'est oui, si.
Facebook, Instagram, Twitter,
Apple, on a déjà dit Google, Amazon,
Microsoft.
Non.
C'est pas un GAFA.
C'est pas un GAFA.
3615
TF1. Extrêmement utilisé par les jeunes pour écouter de la musique.
Deezer, Spotify,
c'est gratuit.
Deezer.
C'est gratuit.
YouTube.
Apple Music.
Exactement, YouTube.
Ah, YouTube.
Ils ont collecté des infos personnelles de mineurs, localisation, appareils utilisés, numéro de téléphone, sans que les parents ne le sachent, pour envoyer de la publicité ciblée. Vous mangez, vous dévorez les réseaux sociaux ou pas, Anna Girardot?
Dévore.
Ouais.
Non, moi je suis juste sur Instagram, c'est déjà pas mal.
Et vous êtes abonné Netflix, Amazon, les séries par exemple?
Moi je suis inscrite à la cinétech.fr et ça c'est super, tout le monde devrait y aller parce que c'est pas cher déjà et en plus ça vous permet de voir des films remasterisés, des vieux films, des classiques. Il y a une liste de 50 films par grand réalisateur qui donnent leurs films préférés. Dont Cédric Clapiche, qui en est même je crois le fondateur, un des fondateurs pardon. Et ça permet de voir des films qu'on n'aurait pas l'occasion de voir d'habitude. Et
très bien. On va vous retrouver dans la série de Lola Doyon, c'est-à-dire Madame, Cédric Clapiche. Ça s'appelle Moins qu'hier, plus que demain.
Oui, sur Canal. Tout à fait. C'est une adaptation de la bande dessinée de Fab Caro. Et c'est
laquelle
Moins qu'hier, plus que demain. Ouais, c'est le nom de la bande dessinée. Il y a Pierre de Ladonchamp, Guillaume Gouix notamment dedans, Emma de Caunes. C'est extrêmement drôle et c'était jouissif à faire, vraiment. Je me suis éclatée.
Alors, et vous, j'ai cherché des projets, François Civil, et alors soit vous êtes en rétention de projet, vous voulez rien dire.
C'est fini. En fait, il y a beaucoup de films qui sont sortis cette année, mais j'en ai pas tourné. Je suis en train d'en tourner un là, et c'est le premier, possiblement le dernier de l'année.
Donc, racontez-nous.
C'est un film de Cédric Jiménez.
Chaloupé Coco.
Chaloupé Coco, 75. qui s'appelle Bac Nord, avec Gilles Lelouch, Karim Leclou, Adèle Exarchopoulos.
Et vous faites quel genre de personnage?
Nekfeu.
Je joue un policier, ouais. Fan de Nekfeu. Non, qui n'est pas fan de Nekfeu, mais j'ai un peu la dégaine de Nekfeu, là, c'est vrai.
Et là aussi, alors, de la même manière que pour travailler le rôle, vous êtes, vous avez rencontré des policiers, vous êtes allé sur le terrain, vous avez discuté, échangé avec des personnes qui pourraient se rapprocher de votre personnage?
Ouais, carrément, j'ai passé un petit mois à Marseille tout seul, parce que mon personnage est marseillais en plus, donc je prends un léger accent dans le film, donc il fallait que je me baigne un peu
dans l'accent.
Dans la mer déjà, et aussi dans la ville. Donc ça, on a rencontré des flics qui sont liés à l'affaire dont on parle, une affaire de 2012.
C'est une histoire vraie.
C'est basé sur l'histoire vraie, ouais. Voilà.
Waouh. Basé aussi sur une histoire vraie, c'est
Vas-y.
Un drame.
Un homme qui a laissé pousser son ventre et pas ses cheveux. Voici Daniel Morin.
Ça y est, c'est bon.
Quoi ?
Après la Corse la semaine dernière, depuis hier, c'est toute la moitié sud du pays qui a la fête. De quoi parle-je ?
Après la Corse, alors c'est pas le soleil, c'est pas le...
De l'ouverture de la chasse. Eh oui, hier, les canards, les sangliers, les lièvres, les faisans, les perdrix, les biches, eh ben ils font moins les malins, hein. Comme tout ce qui se balade dans les bois, tout est menacé. Rien n'est à l'abri, même pas les écureuils. Allez viens, y a plus rien à bouffer. On va chercher des noisettes. T'es dingue, la chasse est ouverte, on va se faire buter. Mais non, ils tirent pas les écureuils. Mais ils sont assez cons pour nous prendre pour des lapins qui grimpent aux arbres. Allez, jusqu'à le cinglant et on rentre. Non, je te dis, on arrête, on attend la nuit. Bon, ben moi j'y vais, je vais pas non plus. Je l'ai où, c'était un lapin grimpeur ? Oh là là, oui, faites gaffe. Et attention, si vous êtes adepte des balades en forêt, portez une combinaison orange vif en permanence.
Oui.
Malheur à celui ou celle qui se dit oh, « Pour la balade, je vais mettre ma petite veste verte, mon pantalon marron, c'est idéal pour le sous-bois. » Tu fais pas 10 mètres avant qu'un alcoolo en treillis se mette à gueuler « Putain, un ours !» et te balance sa chevrotine. Alors je sais, oui, certains vont dire « Oh, mais la chasse, ça permet de réguler les espèces. » Quand il y a trop de sangliers, et qu'on voit un sanglier, bah on tire les sangliers. Quand il y a trop de loups, quand on voit un loup, bah on tire le loup. Quand il y a trop de lapins, quand on voit un lapin,
qu'est-ce qu'on fait ?
On tire le lapin. Par contre, quand l'espèce est rare, le chasseur sait comment réagir. Quand il n'y a pas beaucoup de sangliers, et qu'on voit un sanglier, bah allez, on tire quand même. C'est le problème du chasseur. Quand tu lui donnes le droit de reprendre son fusil, ça le rend dingue. Non mais cette histoire de régulation des espèces, ça me fait peur. On ne sait pas où ça peut nous mener un jour. France Inter Flash Spécial, ça y est, c'est l'ouverture de la chasse sur tout le territoire. Cette année, parmi les espèces qui prolifèrent et qui sont donc particulièrement visées par les chasseurs, on trouve le lapin, le faisan, mais aussi l'humoriste. Humoriste dont l'expansion semble incontrôlable sur les antennes radio. Là, je te dis, c'est Tanguy Pastureau. Oh, plein dans sa gueule. Oh, putain, derrière, il essaye de fuir. Ce cul, c'est Marilyn Rollman. Saloperie, va. Puis là, je vais tirer dans la patte. Viens, on va l'achever.
Non, pitié, je suis suisse. Et comme tous les Suisses, je suis une vraie collabo. Si vous me laissez partir, je vous balance la cachette des Belges. Ils sont au moins 6 à regrouper dans un bureau.
Désolé, ma belle, mais on les a tous butés ce matin. Allez, viens, on se casse. On va chez Europe 1. Là, regarde, là, c'est Mathieu Noël. Oh, regarde ce que j'ai trouvé. Eh, allez, on se le fait à deux. Un, deux et... Non, déconne pas, c'est Canteloup. Bah quoi, il est humoriste? Oui, mais il est pas drôle. Oh. Conclusion, méfiez-vous des chasseurs, faites attention en sortant de chez vous. Et si vous êtes poilu, ne sortez pas du tout. À demain.
La bande originale avec Nadine.
Il n'y a pas eu de tir de sommation.
Il y a eu un précédent.
Allez, tu sais quoi ?
Allez, hop.
Ah, ça va pas marcher.
C'est l'histoire. C'est l'histoire d'un amour.
Voilà, ça va te mettre un peu de tendresse dans un monde de brut. Marina Rollman, qu'avez-vous retenu de tout ce qu'on a raconté de 2 mois ?
Que j'ai envie d'aller voir 2 mois.
Très bien. Leïla, toi, tu l'as déjà vu ?
Oui, moi, je l'ai déjà vu.
Bah, je trouve que c'est, je sais pas, j'ai la sensation que quand on cherche l'amour, on pourrait essayer de regarder un peu autour de soi.
Je suis là.
Non.
Non, mais ça va. Regarde de l'autre côté. Tanguy, passion.
Que grâce à Daniel Morin, je suis enfin mort dans une fiction, donc j'ai un peu la même vie que les acteurs.
Tanguy là.
Que si vous avez vu de moi, il faut retourner le voir parce que je pense qu'il y a plusieurs lectures et tu recomprends plein de trucs, etc.
Daniel Morin.
Et moi, je me rends compte que je suis pas tout seul à être très seul dans Paris, et ça, ça me rassure.
Anna, qu'aimeriez-vous entendre à la sortie d'un film? Peut-être que vous avez déjà entendu d'ailleurs la fin d'une projection de présentation publique.
Ce que, en effet, oui, j'ai entendu, c'est-à-dire, ça m'a fait du bien.
François Civil?
La même chose, c'est pour ça qu'on fait ça.
Faire du bien aux gens?
Ouais, ou en tout cas, bouger un truc en eux, quoi.
Ouais. Faire réfléchir aussi un tout petit peu, ça, ouais. C'est ce que ça apporte.
Les esprits et les cœurs.
Ce que je disais hier à quelqu'un, c'est que quand j'ai vu l'Auberge espagnole, j'ai eu qu'une envie, c'est de partir et voyager. Et ce film, moi, je trouve qu'il donne envie de partir en soi.
C'est signé Cédric Capiche et c'est à partir de ce mercredi au cinéma. Vous avez des excuses à présenter, j'imagine, Daniel Morin.
Évidemment,
et pas qu'à Cantelou.
Non, pas celle-là. Désolé pour Nagui qui, avait prévu de tabasser, maltraiter François Berléand et avait pointé sa carrière déclinante.
C'est vrai, j'ai oublié.
Eh bien non, bah ouais, t'as oublié, pas possible. Pas une vanne.
Mais non, parce que j'ai du respect pour les personnes en fin de carrière.
Moi, je peux vous dire, moi, j'étais pas prêt, tout ça. Bon, François, je vais travailler perso, je vais travailler Nagui pour qu'il vous réinvite. Et bien sûr, vous redéteste.
Je l'aime.
Désolé pour la carrière, le talent de Yannick, la langue française vue par François Civil, les blagues de Nagui et tout ce qui a été souillé, tabassé, malmené dans cette émission. Les ravages de l'alcool collectif. Désolé enfin pour Tango, Papaye, Rumba, Ananas, Cha-Cha Mang et Disco Passion qui nous ont envoyé plein de messages pour avoir des rendez-vous avec Chaloupé et Noix de Coco. Et ben non, il peut pas, il est en couple et heureux avec une certaine salsa banana.
Merci Anna Girardeau,
merci
François Civil, bravo. Demain c'est Muriel Robin qui sera notre invité. Tout de suite, ce sont les cannes de champagne. Pardon pour le retard.
Non, bonjour, j'ai une petite question quand même rapide.
Je vous en prie.
On peut pas savoir comment se termine le film?
Bah surtout pas.
Non, il fallait le voir pour ça.
Parce qu'on dit que la fin de mois est difficile.
Ah, la fin de mois. Eh ben, sera plus facile que ça.
C'est ça.
Ciao.
Salut les amis.
Salut.